RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Alors au milieu de notre actualité un peu lourde de ces derniers temps, nous allons introduire un peu de douceur, un peu de sucre, un peu d'énergie. En un mot, nous allons introduire un peu de miel. En effet, avec nos invités, nous allons revisiter l'histoire du miel, cet étrange ingrédient naturel venu du fond des âges, qui fait nos délices autant qu'il a fait ceux de nos ancêtres préhistoriques. Et puis donc, à partir du miel, nous allons nous pencher plus largement sur l'histoire de notre alimentation, parce qu'elle est significative de notre propre histoire et de notre culture passée et à venir. Voilà, pour ce beau et doux voyage, nous sommes en compagnie de Marie-Claire Frédéric. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes journaliste culinaire, spécialiste de la fermentation, on en parlera tout à l'heure. Vous avez créé un blog intitulé « Ni cru, ni cuit », ce qui est très prometteur. Et vous avez publié un livre sous le même nom, paru chez Alma en 2014. Votre livre, votre dernier livre qui vous amène à ce micro aujourd'hui, s'intitule « Le miel, une autre histoire de l'humanité ». Il est publié chez Albin Michel.
Exactement.
Et puis nous sommes également en compagnie de Gilles Fumet. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes géographe, professeur à l'université Paris-Sorbonne Paris 4, spécialiste de l'alimentation et des cultures alimentaires. Vous êtes également chargé de cours à l'Institut catholique de Paris, à Sciences Po Paris. Vous travaillez sur l'alimentation, vous la replacez dans des problématiques géoculturelles et votre dernier livre s'intitule « Histoire de l'alimentation ». C'est dans la fameuse collection « Que sais-je » aux Presses universitaires de France, au PUF. Et vous êtes le co-auteur donc de ce « Que sais-je » avec Jean-Pierre Villiot. Voilà, donc avec nos deux invités, au cours de cette conversation qui va durer une petite heure, nous allons retracer à travers les abeilles toute l'histoire de notre alimentation.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Les racines du présent aujourd'hui à travers les abeilles. Nous allons donc retracer toute l'histoire de notre alimentation. Nous sommes en compagnie de Marie-Claire Frédéric pour son livre « Le miel, une autre histoire de l'humanité », c'est chez Albin Michel, et de Gilles Fumet pour son « Que sais-je » consacré à l'histoire de l'alimentation, un « Que sais-je » qu'il a co-signé avec Jean-Pierre Villiot. Alors Marie-Claire Frédéric, les abeilles, on en parle soit trop peu, mais à travers votre livre absolument passionnant et très goûteux, très sucré, eh bien vous nous rappelez ce que les abeilles apportent à l'humanité. Les abeilles apportent beaucoup de choses à l'humanité depuis très longtemps.
Depuis très très longtemps. Déjà, les abeilles existent sur la Terre depuis bien plus longtemps que l'humanité.
Oui.
Des millions d'années avant nous, elles étaient déjà là.
Les mêmes abeilles.
Alors, il y a eu des stades dans l'évolution.
Oui.
Mais les abeilles actuelles, ça fait aussi un bon moment qu'elles existent.
Ce sont comme des dinosaures qui ont survécu, qui auraient
Exactement,
survécu.
Exactement, elles ont survécu. C'est inimaginable. Ce à quoi elles ont survécu, elles ont survécu à 6 extinctions de masse, dont certaines extinctions qui ont détruit 90% de toute la vie sur Terre.
Et pourtant, elles sont toujours là.
Et pourtant, elles sont toujours là.
Alors, c'est peut-être pour cette raison que les abeilles, vous les décrivez, Marie-Claire Frédéric, comme symbole de fécondité, symbole de virginité, notamment en Égypte. Racontez-nous.
Oui, alors les abeilles, elles sont le symbole de virginité. Pourquoi ? Parce que très longtemps, on a cru qu'elles se reproduisaient sans avoir recours à la sexualité.
Mmh.
Puisqu'on ne connaissait pas, on ne connaissait même pas la reine des abeilles, comment elle faisait pour se reproduire. Donc on pensait que c'était les ouvrières qui se reproduisaient, mais sans avoir recours à la sexualité. Alors évidemment, ça a été le symbole donc de la virginité. C'est aussi dans la religion chrétienne, c'est le symbole de la Vierge Marie.
Il y a l'abeille. Un lien entre la Vierge Marie et l'abeille. D'accord.
Et donc, en Égypte aussi, dans l'Antiquité, vraiment. Et c'est aussi un symbole de fertilité, fécondité, chez les Égyptiens, par exemple, parce que l'abeille, elle est créative, elle crée quelque chose. Déjà, il y a cette multitude d'abeilles dans la ruche, ça évoque l'idée de profusion, et c'est quelque chose qui est généreux. L'abeille, elle produit le miel.
Donc voilà, depuis les débuts de l'humanité, enfin depuis les débuts de la vie sur Terre, en gros, si je vous suis bien, Marie-Claire Frédéric. Les abeilles produisent le miel. Alors, vous soulignez à juste titre, Marie-Claire Frédéric, dans votre livre « Le miel, une autre histoire de l'humanité » qui est paru chez Albin Michel, que le miel est une nourriture prête à consommer.
Exactement.
Et ça, c'est très rare.
C'est très rare. Enfin, en fait, c'est la seule nourriture qui nous arrive comme ça. En plus, elle est fabriquée par un animal.
Oui.
C'est encore plus extraordinaire. Et elle est déjà toute prête à consommer. On peut le manger directement. Et c'est une nourriture qui est vraiment nutritive. Qui fait du bien.
Voilà. Donc elle est disponible.
Elle est disponible et depuis toujours et elle fait du bien.
Voilà. Gilles Fumet, vous qui êtes un spécialiste de l'histoire de l'alimentation, est-ce que vous confirmez ce que nous dit Marie-Claire Frédéric sur l'histoire du miel?
Oui, bien sûr. Ce qui m'étonne dans ce qu'on dit et ce qui pourrait surprendre nos jeunes auditeurs, c'est de dire que les abeilles produisent du miel, sont généreuses, mais on peut se demander aujourd'hui si elles le produisent pour d'autres animaux que qu'elles-mêmes. Donc il y a quand même bien l'histoire d'un vol, mais de quelque chose qui un rapport qui est quand même assez curieux, dans le sens où effectivement elles produisent largement pour la pas passer leur hiver, mais ce qu'elles produisent pour nous, ça c'est une question. Et puis l'autre
en
chose,
tout cas c'est ce que nous avons décidé, nous les hommes.
Oui. Mais nous ne sommes pas les seuls, parce que dans la nature il y a plein d'autres animaux qui se nourrissent
les
de
ours,
miel,
les
notamment les ours sont les plus connus, les singes et certains oiseaux.
D'accord. Et l'autre, c'est pas uniquement pour l'homme. Oui.
Et l'autre aspect, c'est intéressant. En fait, on parle de reine et d'ouvrière.
Oui.
Et donc là, donc on a une vision hiérarchique de la ruche. Oui. Hein. Mm-hmm. Ce serait intéressant de savoir dans l'histoire, en fait, comment est apparu ce mot ouvrière. Oui. Peut-être l'avez-vous.
Parce que c'est
les reines et les ouvrières.
Je pense que c'est assez.
Marie-Claire Frédéric.
C'est assez récent, je pense, cette dénomination. Alors déjà, la reine, autrefois, quand on a découvert qu'il y avait cette abeille spéciale dans la ruche qui avait, semble-t-il, un rôle différent, on pensait que c'était un roi. Parce que c'était
un mâle.
C'était un mâle, voilà. Parce que c'était inimaginable, dans certaines époques, de penser qu'un être féminin puisse être à la tête de quelque chose, d'une espèce de royaume animal. Ouais. Et ce qui est significatif, c'est que le premier scientifique qui a montré que c'était en fait une reine et non pas un roi, c'était Charles Butler, qui vivait à l'époque, qui vivait en Angleterre, donc sous Élisabeth Ier.
Donc à quelle époque, rappelez-nous ?
C'était au XVIe siècle.
D'accord.
Et donc, Élisabeth Ier étant une souveraine, une femme, donc là, ça devenait envisageable.
Compréhensible.
Voilà.
Alors, vous nous rappelez que pour Proudhon, donc l'un des apôtres du socialisme au XIXe siècle, eh bien la ruche est, je cite, un modèle de société coopérative sans coercition.
C'est ça.
Une sorte d'autogestion.
Une sorte d'autogestion de voilà. En fait, la ruche, elle a été le modèle de la ruche, de l'organisation de la ruche, a été pris comme modèle par plein d'idéologies. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais par exemple les communistes, ils voyaient justement une espèce
de sorte de kolkhoz,
voilà, c'est ça.
Oui.
Au contraire, les monarchistes, ils voyaient le symbole de la monarchie, parce que c'était tout ce petit monde était sous la direction d'un personnage supérieur,
d'un monarque.
D'autres y ont vu un modèle, comment dire, de défense contre les prédateurs, parce que la ruche se défend toute seule contre les prédateurs. Donc il y a eu plusieurs.
Ça a focalisé beaucoup de choses,
beaucoup d'interprétations.
Alors peut-être vous pouvez nous rappeler, Marie-Claire Frédéric, pourquoi est-ce que Napoléon a pris l'abeille comme emblème de son premier empire?
Alors Napoléon a pris l'abeille parce que il y a eu une fouille archéologique juste à ce moment-là. On a découvert, c'était un tombeau mérovingien, je crois me souvenir, et on a découvert justement une abeille dans ce tombeau. Et alors il a pris ce symbole parce que ça tombait à pic pour lui.
C'est une façon pour lui de s'inscrire dans une tradition
très ancienne et et pour lui, donc, il voyait ça comme un symbole très monarchique. Hein,
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le lien entre la Vierge Marie et les abeilles. Vous nous expliquez aussi dans votre livre que Saint Ambroise de Milan est le patron des apiculteurs. Pourquoi donc ?
Oui, alors, il y a une légende autour de Saint Ambroise de Milan qui veut que quand il était enfant, quand il était bébé, des abeilles soient venues se tourbillonner autour de lui. Et en fait, ces abeilles, elles semblaient sortir de sa bouche. Et évidemment, sans le piquer, enfin, ce qui était extraordinaire, elles venaient mettre du miel sur la bouche du petit Ambroise. Et en fait, cette légende existe aussi pour d'autres personnes. Par exemple, on le raconte pour Platon, on le raconte pour le poète Pindare, pour aussi Sainte Rita.
Ah oui, la fameuse Sainte Rita. Sainte
Rita, voilà. Et ces personnages-là ont tous un rapport avec la poésie ou avec l'éloquence ou avec le chant. Vous voyez, c'est la parole.
D'accord. On voit la grande richesse.
Le miel de la parole,
le miel de la parole.
Symboliquement.
Et du reste, on parle pour certains auteurs d'une parole mellifluée.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire d'une parole chargée de miel. On disait ça notamment pour le cardinal Ratzinger, alors qu'il n'était pas encore pape, on en parlait. On parlait de son éloquence mellifluée dans son enseignement en Allemagne.
Parce que Saint Ambroise a été l'auteur d'hymnes très, très importants. Et d'autre part, il y a aussi l'étymologie qui est intéressante, l'étymologie du nom Ambroise. C'est la même étymologie que l'ambroisie, dans la fameuse boisson des dieux qui était aussi mielée. Et cette étymologie vient d'une racine indo-européenne. C'est la Ambrotos, c'est-à-dire ça veut dire... anti-mort.
D'accord.
Brotos, c'est la mort. Arme, c'est privatif. Donc, c'est quelque chose qui est pour la vie.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant en vous écoutant, Marie-Claire Frédéric, c'est qu'on voit bien que le miel s'inscrit dans un grand nombre de traditions culturelles et religieuses. Ce qui m'a frappé, Gilles Fumet, en lisant votre histoire de l'alimentation parue chez Que sais-je, vous préciser, alors vous faites un chapitre évidemment sur le rapport entre alimentation et religion, mais vous précisez que le christianisme est aujourd'hui la seule religion qui ne propose pas de règles alimentaires. Alors ça nous éloigne un peu des abeilles et du miel, on va y revenir, je vous rassure, mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez ça, Gilles Fumet, sur singularité du christianisme.
Ben, ça a été là, effectivement la grande révolution apportée par Jésus, puisque lui donc qui voulait pardonner tous les pécheurs, s'ouvrir à tout le monde, il a commencé effectivement par casser tous les codes des religions de l'époque, et notamment donc le judaïsme. Et puis après, effectivement, dans l'islam, ça s'est confirmé en quelque sorte, parce que si vous voulez, la religion, l'alimentation, c'est le rapport au monde, c'est le rapport aux autres.
Oui.
C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on partage, c'est ce qu'on mange ensemble, c'est ce qu'on produit ensemble. Et donc, dans ces religions, effectivement, ces deux monothéismes que sont le judaïsme et l'islam, leur rapport à la religion, il passe aussi par une interprétation du rapport à l'autre. Or, dans l'islam, effectivement, celui qui n'est pas musulman, il est en dehors.
Il est en dehors de la communauté des croyants.
Voilà. Et même chose avec le judaïsme. Et donc, pour marquer en quelque sorte cette frontière, voilà, comme ça s'est passé, comme dans le Lévitique, il y a eu toute la liste des prescriptions.
Oui.
Voilà, on insistait sur l'alimentation. Or, ce que fait le Christ, justement, c'est qu'il casse tout ça. Voilà, et il introduit un nouveau rapport qui est justement le rapport du plaisir, le rapport du partage. Voilà,
donc le marqueur des pas alimentaires,
le marqueur
de l'appartenance des pas alimentaires.
Et même ça va plus loin, parce que le vin et le pain sont des symboles de la vie aussi. Hein, c'est partagé comme des symboles de la vie, et donc c'est exactement le contraire. Voilà. Alors après, qu'on ait rajouté des prescriptions, notamment le jeûne, les jeûnes qui sont pas vraiment des prescriptions alimentaires, mais qui sont des comportements qu'on peut avoir à certains moments de l'année. Là, je pense que c'est vraiment lié au fait que on est dans une période jusqu'au XXe siècle d'insécurité alimentaire, et que tous ces moments de privation au cours desquels on n'a pas à manger parce que voilà, eh bien, il faut leur donner du sens. Hein. Et un des sens qu'on peut
donner... donner du sens à la privation.
À la privation, ben, c'est de dire que, ben oui, on offre à Dieu, en quelque sorte, son effort. Voilà. Et on l'a marqué, donc, avant les grandes fêtes, justement, parce que ça permettait aussi de mobiliser un peu de plus de nourriture pendant les fêtes. Et pendant les fêtes et les banquets, de faire cette provision de plaisir, de cet excès qui va faire que, eh bien,
d'où le carnaval.
Voilà, pour le carnaval. Et après, quand on est privé de nourriture, on sait qu'on va retrouver ces excès parce que on a toujours dans notre sociabilité des enfants qui naissent, des parents qui meurent, et à chaque fois, il y a toujours forcément un banquet, et donc c'est ce va-et-vient entre le manque et l'excès finalement on a. Voilà.
Alors nous allons poursuivre notre conversation sur, je vous rappelle, le thème de notre édition des Racines du Présent, à travers les abeilles, toute l'histoire de notre alimentation, mais nous allons faire une première pause musicale, une pause douce et sucrée peut-être, à l'image de votre livre, Marie-Claire Frédéric. Nous allons écouter Henri Salvador, L'abeille et le papillon.
Une abeille un jour de printemps voletait gaiement. Sur la rose bruyère en fleurs, dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel. Et la pauvre chenille en sanglots lui disait « Je vous aime ». Mais l'abeille là-haut, tout là-haut, n'entendait pas un mot. Cependant que les jours passaient, la chenille toujours pleurait, et l'abeille volait gaiement dans le ciel du printemps. Après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit. Mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en fleurs, notre abeille a donné son cœur, tandis que chantaient les grillons au petit papillon. Par les bois, les champs et les jardins, se frôlant de leurs ailes, ils butinent la rose et le thym dans l'air frais du matin. Ma petite histoire est finie, elle montre que dans la vie, quand on est guidé par l'amour, on triomphe toujours.
C'était Henri Salvador, L'abeille et le papillon.
Les racines du présent. RCF.
Au micro Frédéric Mounier, notre conversation aujourd'hui dans les racines du présent, eh bien à travers les abeilles, nous retraçons l'histoire de notre alimentation. Nous sommes en compagnie de Marie-Claire Frédéric pour son livre Le miel, une autre histoire de l'humanité chez Albin Michel, et le géographe Gilles Fumet pour son histoire de l'alimentation publié en Que sais-je avec Jean-Pierre Villiot. C'est aux presses universitaires de France. Alors Marie-Claire Frédéric, on a entendu Henri Salvador qui, avec la délicatesse qu'on lui connaît, nous explique, retrace ce que c'est que le butinage. Cette relation entre les fleurs et les abeilles est une relation extrêmement singulière que vous qualifiez, Marie-Claire Frédéric, dans votre livre, de mutualiste. Expliquez-nous.
C'est ça, parce que c'est pas une relation de prédation, parce que les abeilles et les fleurs ont besoin l'une de l'autre. Alors déjà, elles sont apparues ensemble dans l'évolution. Les abeilles sont nées en même temps que les fleurs. La fleur, elle a besoin de l'abeille pour se reproduire, parce que pour le phénomène de pollinisation. Et l'abeille a besoin de la fleur pour le nectar, pour fabriquer le miel qui lui sert de nourriture en fait pour sa progéniture. Mmh. Donc l'abeille ne vivrait pas sans la fleur et vice versa. C'est pour ça que c'est pas une relation de prédation, c'est vraiment un mutualisme.
Alors vous utilisez une expression bien précise pour qualifier cet échange. Vous dites il s'agit de séduire pour survivre.
Oui, c'est ça. La fleur doit se rendre attrayante pour attirer les abeilles. Alors elle a des belles couleurs. Elle envoie des parfums suaves dans l'air. Elle a ce liquide sucré qui est le nectar qui attire les abeilles. Et elle doit aussi avoir des pétales accueillants comme terrain d'atterrissage. Vous voyez pour donc elle fait plein d'efforts pour que l'abeille puisse venir la voir et lui prendre du pollen et pour disperser le pollen sur une autre fleur.
Alors, Gilles Fumet, dans le cadre de votre histoire de l'alimentation, il y a l'un des points d'évolution contemporaine que vous évoquez, cette question de la pollinisation. Elle est aujourd'hui en péril, si je comprends bien.
Oui, parce que on sait maintenant donc que les pratiques, certaines pratiques d'agriculture chimique, évidemment, menacent les colonies d'abeilles, et donc forcément la question de la pollinisation va se poser. On a réussi à chiffrer ce que pourrait être la disparition des abeilles comme pollinisateurs. C'est quelque chose d'énorme. Ça peut toucher plus de la moitié de la production mondiale de fruits.
À ce point-là.
Ouais. Et donc, en Chine, où il y a justement pas mal de problèmes avec les abeilles qui sont justement menacées par ces pratiques agricoles, vous avez des colonies entières, mais des personnes qui, avec des bâtons, vont essayer de polliniser les arbres parce que les abeilles sont plus là. Donc oui, c'est un grand danger et c'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'il ne faut pas voir seulement nos problèmes écologiques simplement comme des rapports de force entre des gens qui seraient pour et des gens qui seraient contre. C'est vital et le lien que l'on a avec la nature par l'abeille et à notre alimentation par l'abeille nous montre qu'en fond nous sommes tous interdits. Dépendant, en fait, c'est ce qu'a très bien voulu exprimer le pape dans son encyclique. Hein. Je crois que c'est vraiment très important de comprendre que notre système agrochimique, il faut le faire évoluer parce que il est dangereux.
Marie-Claire Frédéric, vous partagez cette inquiétude?
Oui, tout à fait. Il y a aussi le fait que maintenant l'agriculture sont des grandes cultures, de la monoculture uniforme. Si vous avez un immense champ de maïs ou d'immenses champs de blé avec rien autour. En plus, on met du désherbant. Il n'y a même plus un bleuet ni un coquelicot dans le champ. C'est ravageur pour les abeilles parce qu'elles ont plus d'endroits pour aller butiner. En fait. Il faut essayer de revenir à une agriculture peut-être moins productiviste, plus traditionnelle, avec des champs plus petits, de la biodiversité, planter des haies qu'on a détruites il y a quelques années. Voilà, il y a
On va revenir dans un instant sur tous ces défis qui sont ceux de l'avenir pour l'alimentation et pour l'agriculture, mais je voudrais revenir, Marie-Claire Frédéric, sur cette histoire des abeilles que vous décrivez dans votre livre « Le miel, une autre histoire de l'humanité » chez Albin Michel. Vous nous rappelez que depuis toujours, l'homme chasse les nids d'abeilles. C'est-à-dire que les ruches préexistent. Alors, vous allez nous expliquer dans un instant comment ça marche, mais l'homme... historiquement, a toujours chassé les abeilles.
Il chassait le miel, pas les abeilles.
Pardon,
oui, voilà.
Allez-y.
Parce qu'autrefois, évidemment, avant qu'on invente la ruche qu'on connaît aujourd'hui, les abeilles étaient complètement sauvages. Donc, elles vivaient surtout dans les forêts, dans les creux des arbres. Enfin, les abeilles européennes, c'est plutôt ça. Et les abeilles, parce qu'il y a différentes espèces d'abeilles, les abeilles asiatiques et africaines, par contre, elles vivent plutôt dans des endroits, dans des rochers, dans des
trous,
etc. Mmh. Voilà. Et donc, les hommes ont appris à trouver ces endroits où vivaient les abeilles, et alors pour leur voler le miel. Donc parfois c'est périlleux.
Ce qui est un exercice difficile.
Voilà,
oui. il faut se hisser au sommet des falaises, il faut descendre le long des falaises.
C'est ça, sur des échelles de cordes. Mm-hmm. Ou alors il faut grimper
dans les arbres.
Au risque de se
faire. On voit ça encore aujourd'hui,
oui. Tout à fait. Hein. Mm-hmm. Au Népal, par exemple, il y a des endroits où c'est assez vertigineux. Des hommes qui grimpent sur des simples échelles de cordes, sur des hauteurs vraiment qui font peur. Et avec, on entend toutes les abeilles qui leur bourdonnent autour d'eux et bon, tout ça pour
c'est dire
pour
le prix qu'on attache au miel.
C'est ça, exactement. On a toujours fait beaucoup d'efforts pour avoir le miel.
Alors, vous décrivez même le rôle d'un certain type d'oiseau. Il y a des oiseaux qui guident les hommes vers le miel, c'est extraordinaire.
C'est vraiment quand racontez-nous. Alors c'est en Afrique, mm-hmm. un oiseau qui s'appelle le grand indicateur. En latin, c'est indicator.
D'accord.
Et c'est un oiseau qui se nourrit de larves d'abeilles, de cire. Et cet oiseau, il a en fait besoin, c'est encore un exemple de mutualisme, mais cette fois entre l'homme et un animal. Mmh. C'est un des rares exemples, je ne sais même pas s'il y en a d'autres, vraiment de mutualisme comme ça. Donc l'oiseau, il a besoin de l'homme pour trouver le nid d'abeilles et surtout pour que l'homme puisse enfumer les abeilles, sinon l'oiseau ne se ferait piquer et il en mourrait.
Donc l'oiseau a besoin de l'homme.
L'oiseau a besoin de l'homme.
D'accord.
Donc l'oiseau, quand il a repéré un nid d'abeilles quelque part dans la savane africaine, il se met à la recherche d'hommes pour qu'ils puissent
vraiment
l'aider. Oui, il se met à la recherche.
Donc il leur fait signe.
Alors il leur fait signe, c'est-à-dire qu'il se met près d'eux, il volette d'arbre en arbre en faisant un cri spécial que les hommes ont appris à connaître. Mm-hmm. Hein, parce que par exemple en Tanzanie ou en Éthiopie, ça se passe comme ça. Donc quand des hommes qui passent par là voient cet oiseau, ils savent que l'oiseau a trouvé un nid d'abeilles. Donc ils suivent l'oiseau. Et l'oiseau les conduit jusqu'au nid. Alors il y a tout un langage qu'utilise l'oiseau pour dire à quelle distance se trouve le nid, dans quelle direction se trouve le nid.
Donc c'est très sophistiqué.
C'est très sophistiqué. Ouais. Il émet certains cris. Et donc évidemment, nous, on comprendrait rien à ce langage, mais les habitants de la région savent très bien reconnaître ça. Et quand les hommes ont trouvé ce nid, ce qui se fait en quelques heures, alors que parfois, quand il n'y a pas d'oiseaux, ils mettent une journée entière pour trouver un nid d'abeilles. Donc les hommes commencent à faire du feu pour éloigner les abeilles, récupèrent le miel, et à la fin, l'oiseau peut venir manger la cire et les larves qui resteraient. Voilà.
Alors vous parlez du feu, Marie-Claire Frédéric, je me tourne vers Gilles Fumet. L'invention du feu ou l'apprivoisement du feu dans l'histoire de notre alimentation, ça a joué un rôle absolument exceptionnel, si j'ai bien lu votre que sais-je. La fumée permet de conserver, le feu permet de chauffer, de griller. Expliquez-nous l'importance du feu dans notre histoire de l'alimentation, Gilles Fumet.
Bon, c'est d'abord quelque chose de magique, le feu. Ça renvoie à un effet de sidération, de surprise. On l'associe évidemment à la puissance de l'éclair, tout ce qui et aussi ce qui fait peur, c'est-à-dire donc l'incendie. Mmh. Donc le feu, c'est pour l'homme, manier le feu, c'est quelque chose de prodigieux. C'est en même temps donc effectivement un outil qui va permettre de changer le rapport à l'aliment dans la mesure où, comme vous l'avez dit, on va pouvoir mieux le conserver, mais on va surtout pouvoir élargir la palette d'aliments qu'on va manger, parce que on va pouvoir par la cuisson donc les rendre comestibles. Je prends par exemple le cas de la pomme de terre, qui est un aliment magnifique, mais qui ne se mange pas cru. Voilà, et ça, il faut absolument la cuire. Donc, tant qu'il n'y a pas de système de cuisson, on ne peut pas utiliser ces tubercules. Donc, c'est vraiment une étape considérable. Et puis ensuite, le feu, si vous voulez, il a permis de mobiliser des gens autour de cette opération, c'est-à-dire donc des gens qui vont chercher le bois, enfin souvent les femmes. Hein. Et puis ensuite, créer ce qu'on appelle le foyer, c'est-à-dire donc après la cuisson, sont en quelque sorte ce moment au cours duquel on va partager ce qui a été cuit par la femme, par la mère.
On est ensemble autour de quelque chose, voilà. Autour d'un lieu,
exactement.
autour d'une chaleur, d'une source commune.
Voilà. Et donc ça va diversifier aussi les aliments, ça va pousser les populations à migrer davantage vers le nord, où il n'y a pas forcément d'agriculture, mais où il y a une possibilité de faire de l'agriculture, mais où il y a de la des animaux, donc pour manger la viande. Hein. Et donc on va avoir une poussée des humains qui partent de l'Afrique, hein, les premières migrations, ça part, et qui vont passer justement par le nord de la Sibérie, précisément parce qu'ils maîtrisent le feu. Donc c'est
donc on voit bien la chaîne.
Et donc c'est quelque chose qui a été associé jusqu'à ce que Lévi-Strauss, Descola et d'autres anthropologues associé à donc à la culture, puisqu'on disait que en gros le cru
on va y venir
ah, voilà. le cru c'est la nature et le cru c'est la culture, bon c'est beaucoup plus compliqué hein, mais
on va y venir mais ce qui m'a frappé aussi en lisant votre petit que sais-je Gilles Fumet, j'ai compris, vous allez me dire si j'ai bien compris, que la conquête de la viande a favorisé le développement du cerveau chez l'être humain.
Ah oui, bah tout à fait. Ça, c'est vrai que dans l'évolution humaine, le fait précisément que, alors que les singes sont frugivores, que donc une certaine branche des singes donc mange de la viande, voilà, effectivement, va changer le cerveau, voilà, et va progressivement en accroître la taille. Voilà, et probablement donc petit à petit dans l'évolution nous distinguer des cousins, voilà, qui sont restés frugivores, exactement comme aujourd'hui.
Donc c'est c'est la viande et donc le feu qui nous a permis de nous distinguer de nos cousins.
Et puis évidemment la forêt, la savane, le fait que d'après les travaux des années 80 là des paléontologues, c'est le fait que vivant dans la savane, ces humains en quelque sorte, ils sont confrontés au feu des savanes, voilà, et donc ils découvrent aussi par le feu, parce que ça, l'étape au cours de laquelle on a pensé que les humains ont commencé à découvrir la viande avant de la ritualiser par le sacrifice, ça a été probablement accidentel, hein. On a des gens qui parcourent la savane après un feu après et qui découvrent des animaux qui sont cuits et dont ils
goûtent,
testent, voilà.
Et finalement c'est pas si mauvais.
Et parce que dans la consommation transformation de la viande grillée, il y a la fameuse réaction de Maillard qui fait migrer les molécules de sucre vers l'extérieur de la viande et qui lui donne ce goût merveilleux mais c'est parce que la viande est sucrée.
On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors Marie-Claire Frédéric, on va revenir sur votre livre, sur le miel, mais je voudrais profiter de cet excursus historique pour que vous nous expliquiez en gros votre intérêt pour la question de la fermentation. Parce que donc votre blog s'intitule « Ni cru, ni cuit ». Expliquez-nous.
La fermentation, c'est la troisième alternative entre le cru et le cuit. Mm-hmm. D'ailleurs, Lévi-Strauss faisait ce qu'il appelait un triangle culinaire, un triangle alimentaire. Donc, il y a le cru, le cuit, et il appelle ça le pourri, mais il s'agit du fermenté.
Qui est fermenté dans notre alimentation ?
Alors, énormément de choses sont fermentées dans notre alimentation. Le pain est fermenté. Mm-hmm. Le vin est fermenté. Le fromage est fermenté, tout ce qui est yaourt, produits laitiers sont fermentés. Dans les viandes, par exemple le saucisson, c'est de la viande fermentée. Le jambon sec, c'est quelque chose aussi qui est fermenté. Dans les poissons, vous avez les fameux harengs sort. Le mot sort est synonyme de fermenté. Ça vient d'une très ancienne aussi racine indo-européenne, suri, suro, qui a donné dans toute l'Europe, dans toutes les langues d'Europe, des noms relatifs à la fermentation. Par exemple, Sauerkraut en allemand, Sauer.
Choucroute.
Oui. C'est cette racine.
Donc ça, c'est vieux comme le monde.
Ça, c'est vieux comme le monde. Mmh. Et donc, la fermentation, c'est la première transformation d'un aliment en dehors de en dehors de notre corps.
Mmh.
Comme la cuisson. Hein. Parce que la première transformation d'un aliment, c'est de le manger, comme ça, tout cru. Or, quand on le fait fermenter, on le transforme, mais en dehors de notre corps. Et ensuite, il y a eu la cuisson. Et c'est aussi.
Mais plus tard, donc.
La cuisson. On a des indices aussi. Les anthropologues ont des indices qui font penser que la fermentation a eu lieu avant la cuisson. Enfin, on s'est intéressé à la fermentation avant la cuisson.
Gilles Fumet, vous confirmez cette tradition
oui, tout à fait,
de notre histoire de l'alimentation à travers la fermentation.
Il y a le faisandage, par exemple.
Oui.
Quand on pense au faisandage, c'est aussi.
Et on parlera tout à l'heure de l'hydromel.
Voilà, et l'hydromel.
L'hydromel à partir des abeilles, on va y venir. Gilles Fumet.
Oui, en fait, l'un des principaux problèmes des gens de la préhistoire, c'était de savoir. D'avoir des récipients pour conserver les aliments.
Oui, comment conserver ?
Voilà, et comment les conserver ? Mais surtout, et surtout d'avoir des récipients parce qu'on n'avait pas forcément des poteries, etc. Et donc, Marie-Claire a parlé du fromage. Un des outils qui a servi donc à transporter des produits alimentaires, c'était les poches des animaux que l'on tuait. Par exemple,
les
estomacs de
fait,
veau, évidemment les intestins de porc et donc tous ces aliments-là, en fait, notamment pour le fromage, la caillette du veau, en fait, est de la vache, elle a permis de transformer le lait et de faire
de séparer le
liquide du solide et finalement de découvrir que on pouvait quand on mettait du lait dans une poche donc d'animal d'un bovin, eh bien on avait du fromage. Voilà. Et donc en fait, vous voyez c'est forcément lié parce que à cette époque-là, évidemment, les récipients sont rares.
Mm-hmm. Hein,
et donc on se rend compte que en laissant tel et tel aliment à l'air libre ou dans une cave ou
il se transforme et il s'améliore d'une certaine façon.
Ça. Et ils utilisaient aussi des fosses creusées dans le sol.
Mm-hmm.
Donc c'était pas dans la terre, c'était propre. Hein. On mettait des feuilles, des planches, et ensuite on entassait des végétaux, par exemple, dans ces fosses. On recouvre avec une grosse pierre pour appuyer dessus, et ça se trouve en l'absence d'air et ça fermente. C'est les premières choucroutes entre guillemets que l'être humain ait fabriquées. Ça, c'est préhistorique.
D'accord.
Et il faut dire qu'on a des archéologues ont retrouvé dans des îles du Pacifique dont je me souviens plus du nom exactement des îles, mais près de la Nouvelle-Zélande par là, on a retrouvé des fosses comme ça que les habitants de l'endroit avaient laissées parce qu'il y avait eu une guerre. Et les gens étaient partis donc, en oubliant leur choucroute, leur réserve. C'était des fruits d'arbres à pain.
Ouais.
Et les archéologues ont retrouvé ces fosses 150 ans après. Et ça s'est avéré encore comestible.
Ah oui, d'accord.
Comme le vin, exactement.
Voilà, très bien. Alors, on va marquer une deuxième pause musicale, si vous voulez bien, dans notre conversation autour de l'histoire de l'alimentation. Et notre fil rouge, c'est les abeilles. On va écouter cette très jolie chanson interprétée par le comédien Bourvil, que les plus anciens d'entre vous ont connu. Bourvil, la belle abeille.
Alors, les enfants, si vous voulez qu'on chante, il faut faire du silence. Hein.
Dis donc, tonton, qu'est-ce que tu vas nous chanter?
La belle abeille, ça vous va?
Oh
hein? Allons-y! Sans crainte des embûches, une abeille au réveil s'envola de sa ruche, chantant l'hymne au soleil. La belle abeille a butiné les blés barbus. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu.
Je n'arriverai jamais à dire ça, moi.
Ben justement, ça tombe bien. Si tu peux pas le dire, tais-toi. Allez, allons. Posée sur une rose, elle vit un bourdon qui fut pour elle cause d'une grande émotion.
Il fallait pas grand-chose pour lui faire peur.
Alors, de la discipline. Écoutez plutôt votre oncle chanteur. Alors. La belle abeille a butiné les blés barbus. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Alors, sans plus attendre, le bourdon très galant l'invita d'un air tendre en son appartement.
L'abeille a butiné les blés barbus. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu. Ce qu'avec un vagin, je n'avais jamais vu.
C'est difficile à dire, hein?
Oui, oui, je sais, je sais. Je voudrais bien t'y voir, hein. Je t'en prie, hein. Les parois sont de verre, le plafond de papier. Je suis seul locataire en pleine liberté. La belle a butiné les blés barbus. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu. Ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu.
Dis Tonton, pourquoi tu vas moins vite?
Toi, moi, je vais pas tellement moins vite. Où t'as vu j'allais moins vite? Tu sais, toi, tu commences à avoir certaines libertés qui ne me plaisent pas du tout, hein, tu sais. Alors, notre petite abeille, écoutant le bourdon, à ces mots s'émerveille et fait de grands yeux ronds. Qu'est-ce que t'as à rire, toi?
C'est Roger qui fait le bourdon.
Oh, ben t'es malin. C'est bien la peine que je m'applique à chanter d'une façon artistique. La belle a butiné les belles barbues. La belle abeille a vu. Oui, on s'est trompé. La belle abeille a vu. Ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu.
Voilà, bien. C'était Bourville, la belle abeille.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Dans cette édition des Racines du présent, nous retraçons toute l'histoire de notre alimentation à travers l'exemple des abeilles. Nous sommes en compagnie de Marie-Claire Frédéric pour son livre Le miel, une autre histoire de l'humanité, publié chez Albin Michel, et du géographe Gilles Fumet pour son histoire de l'alimentation, co-signée avec Jean-Pierre Villiot dans la collection Que sais-je au PUF. Alors, Marie-Claire Frédéric, on a entendu Bourville à nouveau cette joyeuse légèreté du butinage. Il y a eu un moment où les hommes ont commencé à apprivoiser les abeilles. C'était les débuts de l'apiculture. Et dans votre livre, vous nous expliquez qu'on a commencé par évider les arbres pour faire les premières ruches.
C'est ça, parce que les abeilles naturelles, enfin les abeilles sauvages, vivaient dans des arbres creux. Mmh. Donc on s'est dit, tiens, peut-être qu'en creusant un arbre, peut-être que les abeilles vont venir s'installer. Alors ça a dû prendre du temps, ça n'a pas dû être facile, mais ça s'est produit. Voilà. Et ensuite, l'étape suivante a été de rapprocher ça des habitations. Pour que ce soit moins compliqué pour récolter le miel. Et enfin, on a fabriqué des maisons, entre guillemets, des maisons pour les abeilles, fabriquées de toutes pièces, soit avec des jarres en terre cuite, soit avec des gros roseaux évidés à l'intérieur, ou alors on a fait aussi des ruches en paille ou en adobe ou en paille recouverte de terre glaise, vous voyez, ça, il y a eu plusieurs
mais
méthodes
si
de faire des ruches artisanales.
Si je vous ai bien lu, Marie-Claire Frédéric, on n'élève pas des abeilles, on les apprivoise, c'est ça?
En fait, on parle d'apiculture, on parle pas d'élevage des abeilles, on parle d'apiculture. Et ça, culturellement, c'est assez important, parce que ça montre l'ambivalence de ce produit qui est le miel entre l'animal et le végétal. Alors, évidemment, aujourd'hui, le miel est considéré comme un aliment animal, d'origine animale. Par exemple, les véganes ne consomment pas de miel.
Pour
cette raison-là. Mais dans le passé, on pensait que le miel était un aliment végétal. On pensait que les abeilles, elles allaient le récolter sur les fleurs. Et on pensait aussi que le miel tombait du ciel.
Oui, c'était la manne.
C'était la manne, voilà.
C'est ce que vous écrivez dans votre livre.
C'est ça. C'est une espèce de rosée céleste que les abeilles butinaient.
Une sorte de rosée alimentaire.
Voilà. Mais les abeilles, on ne savait pas donc comment le processus de fabrication. On pensait qu'elles le récoltaient, elles l'amassaient. Et puis les hommes, il suffisait de...
Et puis on s'est aperçu que...
Et puis on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une transformation du produit qui était fait par les abeilles.
Et qu'on pouvait récolter ce miel. Alors parmi les produits de la ruche, il y a aussi la cire. Et vous évoquez dans votre livre le rôle important dans la construction de l'humanité de la technique de la fonte à la cire perdue. Expliquez-nous.
C'est ça. C'est quand a eu lieu ce qu'on appelle l'âge du bronze, c'est à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, en gros, en moyenne. Donc on a commencé à faire de la métallurgie et une méthode très simple pour faire des objets avec des contours compliqués, c'est de faire d'abord un modèle en cire Ensuite,
en cire d'abeille.
En cire d'abeille, oui. Ensuite, on enrobe ce ce modèle en cire. Et quand on va couler le bronze, le métal dedans, le métal qui est très chaud, il va faire fondre la cire. Il va prendre la place de la cire.
Il va prendre la forme.
Il va prendre la forme de la figure qui avait été faite.
D'accord.
Les cloches.
Voilà, par exemple les cloches.
Gilles Fumet, c'est la même technique pour les cloches?
Oui, c'est la même.
Oui, en fait, la technique, on la conserve encore aujourd'hui.
D'accord.
Et donc, pour faire ces métaux, il fallait beaucoup de cire. Donc, c'est sans doute à ce moment-là que l'apiculture a eu un essor. Enfin, parce que on a eu le besoin de pratiquer plus l'apiculture pour avoir plus de cire. Et donc, concomitamment, on a eu plus de miel. Voilà, parce que l'un ne va pas sans l'autre.
Alors le miel, on l'a vu, c'est un aliment, mais c'est aussi un antiseptique, un digestif, une sorte de médicament respiratoire, antibactérien. C'est aussi un élément cosmétique, ça sert aussi à la conservation des corps. Nous expliquez-vous ?
Oui, les Égyptiens l'utilisaient dans la momification, par exemple, parce que c'est un excellent conservateur. Vous pouvez très bien faire l'expérience. Vous mettez des fruits dans du miel, plongez les fruits dans du miel, dans un pot, et vos fruits vont se conserver. Ça va faire comme des fruits confits crus.
Donc c'est l'une des techniques très anciennes de conservation.
Très anciennes de conservation.
D'accord. Ouais. Et sur le côté thérapeutique, ça a toujours été utilisé
comme thérapeutique. Oui. On a des papyrus égyptiens, on a des manuscrits anciens, des manuscrits grecs, des manuscrits arabes, des manuscrits des textes en sumérien aussi qui montrent qu'on utilisait le miel comme thérapeutique. Alors ce sont ces propriétés antiseptiques qui sont utilisées, parce que le miel est un très efficace antiseptique. Et donc on utilisait ça pour soigner des blessures, pour toutes sortes de maux.
Et alors on retrouve aujourd'hui le miel à la base, Gilles Fumet, d'un certain nombre de produits qu'on appelle les alicaments, qui marquent, si je vous ai bien lu dans votre que sais-je consacré à l'histoire de l'alimentation, l'une des tendances contemporaines de l'évolution de notre alimentation, c'est-à-dire que à partir de produits conçus en partie à partir du miel, aujourd'hui, nous nous alimentons pour nous soigner. C'est un marché considérable, Gilles Fumet.
Oui, tout à fait. On s'est toujours alimenté pour se soigner. Hein. Oui. C'est vraiment ça a toujours été pensé. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je ne vous délivrerai pas un secret en vous disant que le livre sur l'alimentation qui marche le mieux, qui marche toujours, qui se vend beaucoup, c'est l'alimentation, notre troisième médecine.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est parce que le corps est notre propriété, et forcément lorsque nous avons eu la difficulté, la souffrance d'être malade, eh bien nous cherchons à éviter de l'être. Donc ça, c'est clair qu'il y a un lien entre l'alimentation et la santé. Après,
oui.
Effectivement, aujourd'hui, avec nos modèles industriels et surtout la publicité qui fait que l'aliment est pensé comme une marchandise qu'il faut acheter en grande quantité à bas prix. Là, on est dans quelque chose qui a dérivé vers les pathologies et qui donne justement ces fameuses maladies de civilisation que l'on constate parce qu'elles sont liées à l'alimentation industrielle. La médecine, elle est liée à l'alimentation. Hein. Je rappelle que quand même Hippocrate, quand il travaille fabriquer son corpus de médecine, il s'appuie sur des produits qui sont destinés à être des régulateurs des organes du corps qu'il avait repérés, exactement comme dans la médecine chinoise, hein, où chaque élément de l'univers, en quelque sorte,
sert
à réguler
les flux intérieurs qui sont les nôtres.
Exactement, c'est ça.
Alors, Marie-Claire Frédéric, il y a aussi un point tout à fait contemporain dans l'histoire du miel que vous évoquez dans votre livre, donc Le miel, une autre histoire de l'humanité, publié chez Albin Michel. C'est la situation assez désastreuse aujourd'hui du commerce du miel. Vous nous expliquez qu'un tiers du miel vendu en Europe est frelaté.
C'est ça, il y a énormément de fraude. Oui. C'est une enquête qui a été faite, je crois que c'est en 2014 ou 15, je me souviens plus exactement, qui a montré cet ordre-là. Il y a des fraudes soit sur la provenance du miel, sur l'origine botanique du miel, c'est-à-dire qu'on dit que c'est du miel d'acacia alors que c'est du miel d'autre chose, voilà, par exemple. Il y a aussi sur l'origine géographique du miel, on vous dit que c'est du miel d'un endroit réputé pour le miel alors que c'est du miel chinois
Il y a un énorme trafic. Si j'ai bien suivi l'actualité, récemment, la réglementation a changé en France.
Oui.
Elle est devenue plus restrictive pour protéger les apiculteurs.
C'est heureux. C'est-à-dire que récemment, maintenant, on va être obligé d'indiquer la provenance géographique du miel. Mm-hmm. Parce que là, vous allez au supermarché, vous prenez un pot de miel, c'est indiqué provenance UE et non UE.
D'accord.
Alors donc la seule chose que vous savez, c'est que ça vient de la planète Terre,
oui.
Mais c'est tout.
Et que c'est sucré.
Voilà, le reste. Alors c'est très très vague, vous voyez. Pour ne rien indiquer ou indiquer ça, c'est la même chose. Tandis que maintenant, on va être obligé de dire si ça vient de France, d'Espagne, d'Italie, etc.
Alors cette question de la provenance géographique, Gilles Fumet, aujourd'hui c'est une tendance lourde. La valorisation du local, c'est quelque chose d'important. Vous écrivez dans votre que sais-je, consacré à l'histoire de l'alimentation, manger, c'est incorporer un territoire.
Oui.
Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ?
Oui, alors c'est incorporer un territoire, c'est une formule de Jean Brune, qui était professeur au Collège de France en 1912, donc qui exprime en quelque sorte ce qui est en train de se passer à cette époque-là, qui est exactement ce que dit notre invité, Marie-Claire, qui est que on a des fraudes énormément au fur et à mesure que le commerce, que l'alimentation entre dans le commerce, c'est-à-dire qu'elle sort du local, donc il y a des fraudes et donc toute la législation qui va se mettre en place et qui va culminer avec l'invention des AOC, appellation d'origine contrôlée, va dans ce sens. Voilà, on va essayer alors maintenant, ce que vous évoquez à propos du local, c'est plutôt quelque chose qui vient, c'est une prise de conscience qui vient après cette euphorie qu'a été la mondialisation alimentaire, qui a fait que les grands distributeurs ont créé un verger planétaire en allant chercher des produits qui pouvaient être là tout temps, toute l'année,
accessible en tout temps, à toute saison.
Toute saison, les oranges qui étaient à Noël, notre émerveillement, le sont là, les raisins, etc. À cause des saisons qui sont alternées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et de l'aviation commerciale qui a permis effectivement de et donc ça a été présenté comme le summum de la modernité, avoir accès à tout le temps. Or on s'est aperçu donc avec la crise écologique, tout ça un coût carbone considérable, et voilà, et aujourd'hui donc l'idée c'est de dire, mais au fond est-ce que nous n'avons pas intérêt à la fois pour connaître la provenance de nos aliments dont on a parlé il y a un instant, mais aussi pour la planète, de relocaliser notre
alimentation. Donc ça, pour vous, c'est une tendance d'avenir?
Ah ben c'est l'avenir, de cette façon
on n'aura pas le choix. Alors Marie-Claire Frédéric, on arrive bientôt au terme de cette édition des Racines du Présent. Dans votre conclusion, vous nous proposez une réflexion que je trouve intéressante et vous allez peut-être pouvoir la développer. Vous écrivez « L'abeille a toujours été le symbole de la culture dans la nature, mais elle incarne aujourd'hui la nature en proie aux dangers causés par la culture moderne. »
C'est ça.
Expliquez-nous cette inversion.
C'est-à-dire qu'autrefois, l'abeille, elle était divinisée, c'était quelque chose, qui était, elle faisait partie de la culture, parce que j'ai un peu raconté toutes ces légendes, toutes ces histoires culturelles autour de l'abeille. Et aujourd'hui, c'est le contraire. L'abeille, on la considère comme vraiment la sentinelle, en quelque sorte, de la protection de la nature. Et contre la culture, parce que finalement, c'est la culture qui abîme la nature.
en quelque sorte, le progrès, ce qu'on appelait il n'y a pas longtemps le progrès.
Exactement, le progrès, c'est ça.
Gilles Fumet, je voudrais pointer une autre de vos conclusions aussi, parce que je trouve qu'il y a aussi des paradoxes comme ça qui sont parlants. Vous parlez de l'évolution des cuisines en Occident. Et vous dites, en Occident, nous n'avons jamais eu de cuisine aussi belle dans l'histoire de l'humanité, qui sont performantes, qui sont connectées, qui sont branchées, etc. Et pourtant, vous écrivez, jamais on n'y a fait aussi peu la cuisine. Cette formulation m'a beaucoup frappé.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on a dit, mais avec le confinement, les gens se sont remis à faire la cuisine, c'est formidable et tout. Je suis assez dubitatif dans le sens où, pendant le confinement et depuis le confinement, la marque préférée des Français, c'est Picard surgelé. Voilà. Et quand vous allez chez Picard, il y a quelques aliments qui sont bruts hein, quand même, mais globalement c'est tout fait. Ça, c'est vrai. Donc je crois que oui, il y a eu cette fascination pour la technique qui a fait que nos cuisines sont devenues en fait les paillasses de nos lycées quand nous avons commencé à faire la chimie. Et on a rationalisé tout ça à l'américaine. Voilà. Et on a technologisé tout ça. Voilà. On a connecté des robots. Hein, je rappelle quand même que le robot qu'on appelait le robot.
C'est le grand succès en ce moment.
Ouais, le robot culinaire. Oui. Mais le robot mari, robot mari des années 50, qui est censé libérer la femme de la servitude de la cuisine, hein, il prend le nom de la Vierge Marie. Hein, je rappelle quand même qu'il ne s'appelle pas Marie simplement par hasard. Parce que Marie est la servante du Seigneur.
Oui.
Et donc c'est elle qui va aussi être la servante de toutes ces femmes qui sont encore assignées.
Vous faites le parallèle.
Bien sûr que je fais le parallèle. Et donc on arrive à cette idée que à cette bizarrerie qui est que jamais on a été aussi bien équipé. Et puis avec les assauts de la publicité, voilà, avec les restaurants qui se délocalisent dans nos appartements par les livraisons, on se sert
on fait cuisine, plus la cuisine.
Les deux outils dont on se sert le plus dans nos cuisines suréquipées, c'est la paire de ciseaux pour couper tout ce qui est emballage
et les suremballages et le micro-ondes. Voilà. Il nous suffirait de ça. Un dernier mot, Gilles Fumet, concernant ce qu'on appelle aujourd'hui les crises sanitaires, c'est-à-dire les peurs alimentaires. Régulièrement, dans l'actualité, on voit surgir des pizzas, des raviolis, de la viande qui sont pas conformes aux normes. Certains historiens nous rappellent quand même que nous avons vécu pendant des siècles et des siècles dans des environnements sanitaires qui étaient beaucoup moins propres qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ça, Gilles Fumet ?
Oui, on peut dire ça, mais en même temps, je suis absolument contre l'idée que l'allongement de notre espérance de vie vient de l'alimentation. Ça vient de nos systèmes de santé, nos systèmes de soins. Si vous avez un problème cardiaque, il y a 20 ans, évidemment, il n'y a rien du tout. Ouais. Mais si vous êtes aujourd'hui dans un TGV, il y a un défibrillateur et c'est pas l'alimentation qui va faire. Donc je crois qu'il faut remettre les choses à leur place et dire bien sûr que elle est quand même formidable notre alimentation, mais nous avons quand même des millions de gens qui souffrent du diabète, qui souffrent de maladies neurodégénératives et ça vient de l'alimentation industrielle. Donc là il faudra changer
le logiciel. Il faut réfléchir là-dessus. Grand merci à tous les deux de nous avoir permis de réfléchir ensemble à partir du miel, à partir de votre livre Marie-Claire Frédéric, dont je rappelle le titre, Le miel, une autre histoire de l'humanité, c'est chez Albin Michel. Et puis Gilles Fumet pour son Histoire de l'alimentation, co-signé avec Jean-Pierre Villiot, c'est chez Que sais-je au PUF. Voilà, à travers les abeilles, nous avons retracé toute l'histoire de notre alimentation. Et donc je pense qu'après avoir écouté cette émission, une belle et bonne cuillerée de miel, peut-être dans un peu d'hydromel, eh bien ça nous fera du bien. Merci à tous les deux de nous avoir permis d'introduire un peu de sucre, un peu de douceur dans cette actualité qui n'est pas toujours facile, et de nous avoir permis de nous resituer dans une perspective historique. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF, et vous pouvez évidemment réécouter cette émission et toutes celles qui l'ont précédée en podcast, en balado-diffusion à partir du site de RCF ou de votre plateforme favorite de balado-diffusion. Un grand merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.